C'est quoi faire du cinéma?
On filme quelqu'un ou filme caméra?
Écoutez, faites très attention.
Plan séquence 98.7, 95.2, Radio Ondine.
Et le spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Et salut la team Plan séquence. Moi c'est Mathieu, toujours au micro, votre geek de service papa de cette tornade toujours en mode négociation pour piquer la télécommande, fraîchement sorti d'un marathon Kurosawa de 12 heures et fan inconditionnel du synthé qui vrille les tympans. Aujourd'hui, on met la télécommande en pause, on ship les gourdes d'eau ou les sodas et on plonge direct dans l'âge d'or du ciné. Des VHS grésillantes, des génériques kitsch à mort et des bad guys qui gloussent comme si leur vie en dépendait. Au menu aujourd'hui, les sorties de la semaine, en ce mercredi 7 mai, la Cinémathèque, on parlera du magnifique film de Tim Burton, Big Fish. Le banger de la semaine, où là on parlera du film Ténor, avec MB14 aux côtés de Michel Larocque. Et on entamera notre premier épisode spécial Star Wars dans le DOS de la semaine, immersion dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, pour célébrer ses 20 ans. Alors, farcissez vos poches de pop-corn, enfoncez-vous dans le canapé jusqu'à sentir les ressorts, mettez votre portable en mode avion, on part pour un trip 100% ciné entre références vintage, rire potache et débats enflammés sur... c'était quoi ce twist final ? Plan séquence, la seule émission qui transforme votre salon en salle obscure. Prêt, action !
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine, 98.7, 95.2.
Et cette semaine, dans les salles obscures, qu'est-ce qu'on vous propose pour aller voir ? On va démarrer avec le film Partir un jour, un film de Amélie Bonin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, Toufik Jalab, Dominique Blanc et François Rollin.
Salut maman.
Oh ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est toi qui l'as appelée ?
La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là ?
Bah alors Béguin, tu t'es perdu ?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
C'est toi la dame qui a gagné Top Chef ?
Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse.
Le jeu de baisse ! Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite !
Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père.
Il faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
C'est qui ce mec ?
Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec.
Cécile m'a beaucoup parlé de toi.
Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Pour le pitch, Cécile, chef étoilée à Paris, doit regagner son village natal après l'état de santé préoccupant de son père. Elle y retrouve Raphaël, son amour de jeunesse, et voit ses certitudes vaciller entre la vie qu'elle a bâtie et ses racines. Amélie Bonin, révélée par ses courts-métrages et la série Parlement, signe ici son premier long-métrage adapté de son propre cours de 2021. Fait historique, c'est la première fois qu'un film de débutant ouvre le Festival de Cannes en sélection officielle, hors compétition bien sûr. On y retrouve Juliette Armanet, la chanteuse star du dernier Olympia et inoubliable interprète d'Imagine au JO de Paris 2024. Elle incarne avec justesse cette chef partagée entre ambition et nostalgie. Face à elle, Bastien Bouillon, César du meilleur espoir pour les enfants des autres, apporte sa douceur habitée en Raphaël. Tandis que le très grand François Rollin et Dominique Blanc parachèvent cet écrin familial et touchés viennent ponctuer les moments de tendresse. Le film mêle dialogue et interlude musical, revisitant autant de classiques que la chanson française, que des tubes contemporains comme Stromae ou encore Céline Dion, pour souligner le passage entre la vie citadine et la vie à la campagne. Partir un jour réussit le pari d'un drame rural lumineux. La mise en scène joue habilement sur les contrastes de décors, cuisine inoxée versus paysage bucolique et les cadres intimistes que captent les non-dits. La bande-son, à la fois nostalgique et moderne, devient un personnage à part entière, portant le récit et soulignant le vertige du retour aux sources. Juliette Armanet, pleinement investie, apporte une fragilité assumée, tandis que Bonin fait preuve d'une réelle maîtrise visuelle, alternant plan-séquence et ellipse poétique pour faire vibrer les cœurs.
Ton nouveau bureau. Ici, tu vas enfin pouvoir contrôler le destin de l'humanité.
Bonjour, bonjour.
Juste pour vous dire, j'aime travailler ici.
Eh bien, écoutez, ça se voit.
Ah, c'est Raphine.
Raphaël est sans doute la meilleure ange de sa génération.
Appuie sur le 5.
Et c'est pourquoi je vous demande de la promouvoir au titre d'archange. Il y a un problème ?
Oui. C'est Paul Carrière. Il est dans l'avion pour aller à Rome, pour se marier ?
Non.
Oh putain, c'est la merde.
Ah bah oui, c'est la merde. Tous les vols sont annulés.
Paul de l'ascenseur ! Mais c'est incroyable, ça fait tellement longtemps !
Sûrement pas, non, ils voyagent pas tous les deux.
Vous allez faire comment du coup ? Y aller à pied ?
Bon, ok, mais à une condition. Cette fois-ci, tu surveilles bien ta cliente, je veux zéro ambiguïté entre eux.
Bah ça va, c'est bon, je connais mon taf. Tu vas calmer. Tu respires profondément.
Ah !
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Nickel, ils se touchent maintenant.
Sinon, reste au basket.
Reste au basket.
Paul, on fait pas ça, hein.
Non, on fait pas ça. Il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés...
T'as te connoté mon numéro ?
Ouais. Pourquoi tu m'as donné un faux numéro ?
Attends, tu l'as embrouillé dans le numéro ?
Mais ils sont pas compatibles !
Je suis sûr qu'on va faire un bon binôme tous les deux.
On poursuit avec le film Ange et compagnie de Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan, Romain Lancry, Julien Pastel... Et François Berléand, Zaou Bretman, Simon Astier, un casting hors norme, hors du commun. Pour le pitch, Paul et Léa, deux humains séparés jusqu'alors, tombent éperdument amoureux. Leur romance est jugée illégitime par leurs anges gardiens, Raphaël et Gabriel, chargés de les empêcher de se rencontrer sous peine de sanctions divines. Vladimir Rodionov s'initie son premier long métrage et co-signe le scénario avec l'acteur Romain Lancry, issu des web-séries à succès. Il transpose sa verve comique au grand écran pour une fantaisie légère, loin des fixes tapes à l'œil. Élodie Fontan, propulsée par « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», incarne une Raphaël à la fois rigide et attendrissante. Romain Lancry, du Palmacho, fait le grand écart entre son humour décalé et un Gabriel fumeur et blasé, tandis que Julien Pastel apporte son flair bouffon. Le grand François Berléand et la talentueuse Zaou Breitman complètent cette distribution, donnant à l'ensemble un relief inattendu. Rodionov revendique ses influences, son humour lorgne vers Bruce Amalight et l'esprit chaotique de la série Good Omens, pour ceux qui connaissent, joue dans l'absurdité de la bureaucratie céleste et les quiproquos divins. Ange et compagnie, séduit par son ton résolument feel-good et son rythme soutenu en 1h30, les gags s'enchaînent sans temps mort, servis par une réalisation épurée qui mise sur la comédie de situation plutôt que l'esbrouffe numérique. La vraie réussite tient dans l'alchimie de Fontan et Lancry. Leur échange, tout en contraste, offre de jolis moments de complicité et d'émotion. Le scénario, malin, évoque la liberté de choisir son destin tout en offrant un regard malicieux sur la hiérarchie angélique.
I believe in this boy. Now is the time to put him in the limelight.
Là, c'est un crack. Il colle parfaitement à votre système de jeu.
Tu le veux pas ?
Bien sûr que je le veux.
T'as la film star, ton fils, hein ?
Je suis trop content que ça marche bien pour tous les deux.
Francis, le nouveau conseiller d'Ismaïla.
Enchanté. T'as un nouvel agent ?
C'est pas un agent, lui. C'est un tueur.
Qu'on avait un deal, vous et moi, que Brahim soit le prochain signé. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste.
L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires.
T'as des pays en or, toi ? Ils attendent quoi pour te faire monter avec les pros ?
Qu'est-ce qu'il a de plus ?
Moi.
Personne ne signe de contrat avec Francis. Il a d'autres moyens de tenir ses joueurs.
Un pistolet sur la tempe ? Qu'est-ce que tu veux, Brahim ?
La même chose que toi. Du bien.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais plus confiance ?
Vous me voulez ? C'est mon prix.
Tu joues un jeu très dangereux.
Et on va terminer avec le film Les Arènes de Camille Perton avec Ilyes Kadri, Sofiane Kames et Edgar Ramirez. Brahim, un jeune prodige du football lyonnais, rêve d'un contrat pro. L'arrivée d'un agent étranger en quête de billets juteux va transformer ce parcours en duel de séduction et de manipulation où loyauté et trahison s'affrontent. Camille Perton, originaire de Lyon, livre ici son premier long métrage aussi, né de sa passion pour le trading des jeunes footballeurs qu'elle étudie depuis 2015. Inspirée autant par les grands films de mafia que par ses souvenirs familiaux de Coupe du Monde, elle construit un drame politique à hauteur d'homme. Ilyes Kadri, qui joue Brahim, incarne avec justesse l'adolescent tiraillé, oscillant entre la fidélité familiale et la tentation incarnée par Edgar Ramirez, charismatique agent aux motivations troubles. Perton a délibérément choisi de ne jamais filmer un seul match. Elle voulait explorer les coulisses du business footballistique, ce qui se passe une fois que les caméras sont éteintes, loin des stades, sur les routes de Lyon à la Côte d'Azur. Les Arènes, frappées par son sens du cadre, La caméra accompagne Brahim dans un vrai voyage visuel, du béton des cités lyonnaises à l'opulence méditerranéenne. La partition musicale, tantôt épique, tantôt mélancolique, souligne l'ascension et la chute annoncée de son héros. Kadri, naturel et vulnérable, capte l'empathie, tandis qu'Edgar Ramirez, en prédateur élégant, crée un contraste saisissant. Le scénario sans concession interroge la marchandisation du talent et la difficulté de rester intègre dans un milieu roi de la spéculation. Voilà, c'était pour les sorties de la semaine. On marque une courte pause avec le premier son que j'ai sélectionné pour vous. L'artiste s'appelle La Cigale, avec son titre Mona Lisa, une découverte qui sent bon la soul, le reggae, et on se retrouve juste après.
C'est bizarre. Moi je pensais être dégoûté par le love, mais mon corps a eu la vision. Quand je suis tombé sur elle, et ses jolis yeux marrons, j'ai cru voir Mona Lisa. Je peux pas cacher les choses, non non. Je sais pas si je suis été ou automne. Si je tombe à qui la faute, mi-tonne. Excuse-moi, ma mi-tonne, cantado. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu passes ton 6-0? Je t'avoue que tu me rends pas indifférent. Mon fait pourra pas dire que je mens. Mais personne peut l'attester. Elle a le charisme et le physique d'Angela Valdez. Son regard donne le stress. Ce serait un peu trop facile sinon. Pour une marche prends la mouche. Normal, j'ai pas dormi de la semaine. Même la musique qui fait bang bang dans mon cœur depuis l'époque où je dormais en classe. N'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet. N'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet. J'aurais craqué ton cœur comme je le fais avec le Ferrero. Comme un harceleur poursuivi par les fédéraux. J'ai quitté la maison et ton bout il me rend paro. Tu la solution à tes blèmes pro. Maintenant tu le sais. Pour une remarque j'prends la mouche. Normal j'ai pas dormi de la semaine. Même la musique qui fait bang bang dans mon cœur depuis l'époque où j'dormais en classe. N'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet. N'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet. Pour toi j'ai quitté la neuse et ton bout il me rend paro. J'suis la solution à tes blèmes pro. Maintenant tu le sais, la musique n'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet. N'arrête pas la crasia basanée, la vida on aime quand ça fait effet.
La Cinémathèque sur Radio Rondino.
Formidable, c'est formidable.
Et on se retrouve pour la Cinémathèque avec cette semaine. On va parler du grand classique de Tim Burton. Ce film aux allures de conte enchanteur. Je vous parle de Big Fish.
Je vous ai déjà raconté l'histoire
de l'érable et de la buique, on la connaît.
L'érable tombe sur les voitures, le sirop se répand partout, ce qui attire des nuées de mouches qui restent collées dessus. Alors elles s'envolent avec la voiture.
En racontant l'histoire de la vie de mon père, il est impossible de séparer la réalité de la fiction, l'homme du mythe. Le mieux, c'est que je vous la raconte telle qu'il me l'a racontée.
S'il y a une chose qu'on peut dire à propos d'Edward Blum,
c'est que j'étais destiné à de plus grandes choses. J'étais la chose la plus extraordinaire que la ville d'Ashton ait connue.
Tiré de l'imaginaire du réalisateur Tim Burton.
La plupart des gens vous racontent une histoire en s'en tenant au fait. C'est pas compliqué, mais c'est pas captivant.
Tu ne t'es jamais dit que tu n'es peut-être pas trop grand, mais que c'est peut-être la ville qui est trop petite ?
On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Mais c'est vrai. Votre belle-mère n'était pas censée se marier avec moi, elle était fiancée à un autre.
Tu ne m'as jamais dit comment tes parents se sont rencontrés. Mais c'est romantique.
Oublie-la, petite, t'es pas à la hauteur. T'étais une vedette là-bas à Plouqueville, mais ici, dans la vraie vie, tu as que dalle.
J'ai plus de volonté que tous les hommes que vous pourriez connaître.
Sandra Templeton, je vous aime et je vous épouserai.
Je me desséchais.
Papa, je ne sais pas qui tu es.
Que veux-tu, Will? Qui veux-tu que je sois?
Sois toi-même. Montre-moi qui tu es pour une fois.
Big Fish a un éblouissant poème visuel où Tim Burton tisse plan par plan la trame d'un songe éveillé. Imaginez-vous au bord d'un fleuve doré, le ciel ourlé de nuages roses et un homme qui vous convie à plonger dans ses plus folles légendes. Voilà le monde d'Edward Blum, maître conteur aux histoires plus grandes que nature, prêt à vous emporter loin de la grisaille du quotidien. À l'orée de sa vie, Edward livre à son fils Will une succession de tall tales, vertigineuses, de courtes histoires. L'étreinte d'un géant silencieux, les funambules dérisoires d'un cirque itinérant, la cité fantôme de spectres noyés de brume et l'idylle passionnée dans le regard de Sandra. Pour Will, journaliste cartésien, ces récits hauts en couleurs sont autant d'énigmes. La vérité se cache-t-elle derrière ces légendes ou n'en est-elle que le reflet? Burton dévoile ici le récit comme un acte de résilience. Chaque mensonge est une main tendue vers la réconciliation, chaque exagération un baume sur le deuil. Fidèle à son esthétique baroque, Burton orchestre une symphonie de vignettes baroques où les décors en carton-pâte prennent vie sous l'objectif de Philippe Rousselot. Les couchers de soleil se parent d'or liquide, les forêts frémissent de brume bleutée et chaque plan semble tout droit sorti d'un livre de légende. La frontière entre réel et imaginaire se fait poreuse. Les faux pistons d'un train miniature deviennent l'organe vibrant d'un récit universel. Danny Elfman, compagnon de route de Burton, compose ici l'une de ses partitions les plus envoûtantes. Cœur éthéré, leitmotiv celtique, percussion lancinante, le spectre thème installe une aura mystérieuse presque chamanique et la love theme offre une caresse sonore rappelant que l'émotion n'a pas besoin de mots pour jaillir. Sur le plan du jeu, on retrouve un Ewan McGregor qui insuffle la candeur du jeune Edward. Ses yeux pétillent d'espièglerie et de soif d'aventure. Albert Finney, quant à lui, prête à l'Edouard âgé une gravité bouleversante. Chaque ride raconte un conte. Chaque soupir porte la nostalgie du temps qui file. Billy Crudup et en Will incarne l'équilibre fragile entre scepticisme et tendresse retrouvée. Tandis que Jessica Lange ou Alison Lohman donnent deux visages à Sandra, de l'innocence candide à la maturité éclairée. Helena Bonham Carter, bien évidemment la muse de ce grand Tim Burton, et aussi sa femme, en sorcière énigmatique, vient glisser un frisson onirique, là où le merveilleux flirte avec l'étrange. À croire que Helena Bonham Carter, ce genre de rôle lui colle à la peau, hein, parce qu'on se rappelle d'elle dans le rôle de comment elle s'appelle, dans Harry Potter. Bref. Avant que Burton n'embrasse le projet, Steven Spielberg avait envisagé Big Fish, jusqu'à lorgner sur Jack Nicholson pour incarner Edward Senior, c'est-à-dire le pouvoir de ce scénario, déjà perçu comme un bijou de mythologie moderne. Quant au roman de Daniel Wallace, Burton en a acquis les droits avant même sa publication, captivé par cette ode à la transmission père-fils. Il savait d'ores et déjà, avant même la sortie du livre, qu'il allait en faire un film. De toute façon, quand on voit la scénarisation de ce film, le passage du livre au grand écran, on voit que le storytelling est vraiment adapté pour en faire un film et un chef-d'œuvre en l'occurrence. Plus qu'un film, Big Fish explore le mythe comme refuge et comme arme. Le mensonge salvateur dissout la douleur et chaque exagération révèle une part de vérité émotionnelle. La paternité s'y décline en héritage de récits. Le fils, en démêlant la légende, se retrouve lui-même prêt à faire ses propres histoires, des passerelles vers l'avenir. Alors, chers auditeurs, laissez-vous bercer par ce kaléidoscope de légende, écrasez votre canapé, savourez chaque note d'Elfman et rappelez-vous que, dans la salle obscure du cœur, la seule règle est d'y croire. Croire aux géants, aux villes fantômes et aux amours gravés dans le temps. Big Fish n'est pas qu'un film, c'est une invitation à nager, tête la première, vers nos propres rives de légende.
Le banger de la semaine, Radio Ondine 98.7 et 95.2.
On poursuit avec notre banger de la semaine avec le film Ténor, disponible sur Netflix depuis le 1er mai, réalisé par Claude Zidi Jr. avec MB14, Michel Larocque, Guillaume Duhesme et Maeva Al-Haroussi.
Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski.
C'est pour elle, merci. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici.
Madame,
bravo, un lourd.
Tu fais quoi ici?
Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap.
Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde.
Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison.
Ça vous dirait un petit exercice de chant?
C'est quoi l'embrouille en fait?
Vous êtes avachi. On peut pas chanter avachi. C'est bien.
Comme ça, un peu teubé là en fait.
Il est hors de question que cet énergumène intègre l'atelier.
Mon métier, c'est de recruter les meilleurs.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive. Tu connais, non?
Oh, ce beau gosse! Il va où là?
Vraiment, il a mis du parfum.
Tu vois quel?
Alors, vous vous rendez compte de la différence?
Là, c'est ouf.
C'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est ouf.
Pour le pitch de ce film, même si la com, il commence à avoir un petit peu d'âge, mais il est disponible que depuis très très peu de temps sur Netflix, Antoine, jeune banlieusard parisien, donc qui est incarné par MB14, mène une vie partagée entre ses études de compta, qu'il n'aime pas du tout, ses livraisons de sushi et ses battles de rap. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, il croise Madame Loiseau, donc qui est incarnée par Michel Larocque, professeur de chant lyrique qui décèle en lui un ténor brut et insoupçonné. Séduit, Antoine cache à ses proches cette nouvelle passion, jonglant entre deux mondes opposés, le bitume des cités et la voûte majestueuse de l'opéra, dans une double vie qui le pousse à réinventer son destin. Après plusieurs collaborations et courts-métrages, Claude Zidi Junior signe ici sa première comédie en solo qu'il coécrit avec Cyril Drou et Raphaël Beignolel. Inspiré autant par les combats de rap que par l'univers feutré des maisons d'opéra, il propose un film feel good où l'humour le dispute à l'émotion tout en brossant un portrait tendre de la banlieue parisienne. MB14, révélation rap de la 5e saison de The Voice, porte Antoine avec une énergie contagieuse et une légèreté inattendue. On sent que c'est son premier film, il y a quand même beaucoup de travail en termes de jeu d'acteur, mais c'est pas trop mal. Heureusement que la grande Michèle Larocque, qui incarne Madame Loiseau, impose son autorité bienveillante et son humour décapant, équilibrant la fougue de MB14 par une élégance chorale. Guillaume Duhesme, en ami sarcastique, et Maïva El Haroussi, en sœur protectrice, complètent un casting où chaque personnage apporte sa couleur comique et humaine. C'est vraiment un film à échelle humaine, véritablement. C'est en regardant la 5e saison de The Voice que Zidi Junior repère MB14, et lui propose le rôle titre, un choix audacieux qui fait la part belle à un talent brut non issu du sérail du cinéma et qui confère le film toute sa fraîcheur et son authenticité. Ténor réussit un savant mix de culture urbaine et de tradition lyrique. La caméra suit Antoine dans ses déambulations rap, puis l'entraîne dans les ors du Garnier, créant un contraste visuel aussi drôle que fascinant. Zidi Junior évite le piège du cliché social en offrant à chaque personnage des amis de cité au professeur d'opéra, une vraie dimension humaine. Si la mécanique comique est parfois prévisible, l'alchimie MB14 Larocque fonctionne à merveille, portée par une bande-son où rap et aria dialogue sans fausse note. Une merveille. Une merveille. Si vous n'aimez pas l'opéra, regardez Ténor, vous allez vous réconcilier avec ce style. Sur Netflix, Ténor est déjà devenu le banger de la semaine. Célébré pour son ton léger, sa dynamique rythmée et son message universel, peu importe d'où l'on vient, c'est la passion qui élève. Et ça, c'était mon banger de la semaine. On poursuit en musique avec Ranges et son titre À quoi elle rêve, et on se retrouve juste après.
Qui laissait pas draguer ses crushs leur faire la cour. J'ai le béguin pour des filles qui me racontent leurs histoires d'amour. Après tout, le principe d'un secret, c'est bien qu'ils ne se disent pas. Logique comme dire que l'amitié garçon-fille n'existe pas. Le pire, c'est qu'au départ, je leur fais de l'œil les premiers jours. J'en joue, mais y'a une classe que je ne brise jamais, j'avoue. Y'a qu'à moi qu'elle sourit, aime taquiner, elle ricane mes blagues. Je préfère fermer les yeux face à leurs appels de phare. Et tu t'étonnes qu'elles aiment les garçons trop directs. Ceux qui ne sauront jamais à quoi elles pensent, à quoi elles rêvent. Et tu t'étonnes qu'elles fuient les garçons trop gentils qui deviendront leur psy quand l'autre cas sera parti. Et tu t'étonnes qu'elles aiment les garçons trop directs. Ceux qui ne sauront jamais à quoi elles pensent, à quoi elles rêvent. Et tu t'étonnes qu'elles fuient les garçons trop gentils qui deviendront leur psy quand l'autre cas sera parti. Dieu seul sait à quel point j'admire ces mecs qui ont peur de rien. Je me convainc que c'est ce genre d'alpha qu'elles retiennent à la fin. Je me sabote en silence, à l'intérieur mon ego me crie. Pourquoi tu te fais si petit? Sois plus charismatique. En même temps j'ai rien à dire, je souris sans plus trop faire de bruit. Pas d'anecdote d'histoire, de cul de quoi faire rire la galerie. C'est fou à quel point se comparer peut faire des dégâts. Je serais parfaitement moi-même si elle m'intéressait pas. Un troisième verre de bon cœur, ça aide à reprendre des couleurs. Heureusement pour ma pomme que c'est encore la happy hour. Et si on cause durant des heures et que ça pourrait continuer, J'ai peur de la déranger, donc je rentrerai seul à pied. Et tu t'étonnes qu'elles aiment les garçons trop directs, ceux qui ne sauront jamais à quoi elles pensent, à quoi elles rêvent. Et tu t'étonnes qu'elles fuient les garçons trop gentils, qui deviendront leur psy quand notre cas sera parti. Et tu t'étonnes qu'elles aiment les garçons trop directs, ceux qui ne sauront jamais à quoi elles pensent, à quoi elles rêvent. Et tu t'étonnes qu'elles fuient les garçons trop gentils, qui deviendront leur psy quand notre cas sera parti.
Et voilà, c'était Ranges avec son titre À quoi elle rêve, une découverte radio ondine, messieurs dames.
Le top de la semaine.
What a day, what a day. Aujourd'hui, dans Plan Séquence et dans le dos de la semaine, on attaque l'entrée d'un nouvel arc. On va parler de la saga Star Wars.
Que la fête commence. Un vrai plaisir.
La guerre sera bientôt terminée. J'aurai très bientôt un nouvel apprenti.
Je ne suis pas le Jedi que j'espérais. Je veux plus.
Partons nous installer quelque part pendant qu'il est encore temps.
Vous êtes en état d'arrestation, chancelier.
Levez-vous, Seigneur Vador.
Si tu me racontes, tu exagères. Ça ne peut pas être aussi terrible que ça.
À l'occasion du 20e anniversaire du film La Revanche des Sith, l'épisode 3, j'ai osé aujourd'hui mettre les pieds dans une saga qui m'est chère, que j'aime tendrement, profondément, et on va parler donc de Star Wars.
Je ne tarderai pas à découvrir toute la vérité.
Alors mes petits Padawan et mes Jedi en herbe, en mai 2005, Revenge of the Sith débarquait dans nos cinés comme une météorite d'adrénaline et de drame.
C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs! Ne prends pas ce risque! Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, Anakin.
Scellant la destinée d'Anakin Skywalker et faisant naître Dark Vador sous nos yeux ébahis.
Seigneur Vador, est-ce que vous m'entendez?
Oui, maître. Où est Padmé? Est-elle en sécurité? Est-elle sauve?
Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tuée.
Le 19 mai 2005, le dernier acte de la prélogie explosait sur grand écran, mêlant décors réels et FX révolutionnaires pour clore en apothéose la trilogie préquelle Star Wars. Deux décennies plus tard, la Force nous ramène à Mustafar pour une ressortie 20 ans après. Et croyez-moi, le bitume de Coruscant n'a jamais paru aussi brûlant. George Lucas, déjà en plein tournage d'Attack of the Clone, écrivait d'une traite la tragédie shakespearienne d'Anakin, son basculement ultime, pour faire de ce film un drame père-fils d'une rare intensité. Petite perle geek, Spielberg lui-même a filé un coup de main en second unit sur des animatics, notamment le duel Anakin-Obi-Wan, histoire d'ajouter sa patte visuelle à la lave de Mustafar. Résultat, un tournage aux quatre coins du monde et une ambition numérique jamais vue sur, sur un préquel. À sa sortie, le public et la presse avaient le sabre laser entre les mains et le rire aux lèvres. Revenge of the Sith récoltait 79% de critiques positives sur le Rotten Tomatoes et une solide consensus pour son ton plus sombre et des scènes d'action démentes. Même si quelques dialogues en CGI divisaient la critique. Un meilleur des 4 épisodes de Lucas selon A.O. Scott et pour beaucoup la pépite tragique de la saga. Et je suis entièrement d'accord avec cette critique. C'est vraiment... Ça clore... En fait, moi, je trouve qu'il a été un peu court. Finalement, ça clôt effectivement l'arc d'Anakin Skywalker qui le transforme en Dark Vador. D'ailleurs, la fin est juste monumentale avec une musique qui prend aux tripes. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long. Spielberg en coulisses, avant de tourner Catch Me If You Can, avait lorgné sur Jack Nicholson pour jouer un Vador encore plus menaçant avant de céder le poste à Burton et laisser Lucas mener la barque. Le script de Daniel Wallace n'était même pas publié que Lucas s'était déjà emparé des droits, fasciné par cette fable de rédemption père et fils. A partir du 25 avril 2025, l'épisode 3 reprend l'affiche pour une semaine limitée en salle pour plus de 2700 cinémas et on a eu la chance d'avoir une de ces projections au cinéma Le Celtic ici à Saint-Main. Et pour la première fois en 4DX, c'est avec les sièges, vous savez, dynamiques, les effets des vents, la vibration synchronisée pour sentir la lave et les explosions sous vos fesses. Résultat, 25 millions de dollars engrangés dès le premier week-end, preuve que la nostalgie et l'expérience immersive sont encore le carburant de la galaxie ciné. Depuis 2012, le rachat de Lucasfilm par Disney a mis le turbo sur Disney+. Hein, on peut parler par exemple de la série de Mandalorian ou encore Andor, mais pour beaucoup... La House of the Moose a défoncé l'ADN de Star Wars. Projet en PLS, calendrier serré, FOMO merchandising ont muselé la magie du grand écran. Perso, moi, je suis déçu. On est passé de l'événement ciné-planétaire à l'overdose de séries et la cohérence s'est évaporée. Comme le dit un article acidulé, Disney use Star Wars hit the cash machine, pas comme une saga qu'on chérit. En fait... Moi, je fais partie des personnes qui ont vu l'avant et l'après rachat par Disney. On voit véritablement qu'il y a une problématique de Disney, en fait. Et de toute façon, on le voit parce que Lucas regrette d'avoir vendu la franchise à Disney. Parce que Disney, en fait, ils y vont. Ah, ils ont eu les droits de Star Wars, comme sur d'autres grosses sagas de films. Ils ont acheté Star Wars, ils se sont dit on y va à fond. Ok, ils ont réussi, grâce à eux, ils ont pu produire la fin de la dernière trilogie. Mais à côté de ça, ils nous font des séries à en veux-tu, en voilà, avec des problèmes de cohérence. On a plus, vous savez, le ton un peu noir, un peu dark, hyper chevaleresque. Là, on rentre dans ça reste Disney, donc faut faire attention à ce qu'on fait, faire attention à ce qu'on dit, de la violence mais pas trop, du dark mais pas trop, faut que ça plaise au plus grand public, etc., etc. Même si la série de Mandalorian a été un carton, je l'ai vu, elle a été un carton, elle est cool, mais elle est vraiment à part. Vraiment, c'est quelque chose qui est c'est vraiment à part en fait. Moi, je trouve, ça prend l'univers de Star Wars. Mais c'est inintégrable dans toutes les trilogies, le préquel, etc., etc. Bref, moi j'étais assez déçu de ce rachat-là. On en reparlera plus longuement, mesdames et messieurs, lors des prochains épisodes de cet arc narratif au sein de Plan Séquence. N'hésitez pas à aller dire vous aussi ce que vous en pensez du rachat de Disney, du rachat de Star Wars par Disney. Sur nos réseaux sociaux, Radio Ondine, sur les réseaux sociaux de Plan Séquence. Donc voilà, on se retrouve là-dessus. N'hésitez pas, surtout. Et voilà, c'était Plan Séquence, mesdames et messieurs. On vient déjà clore ce numéro. Mais comme on dit chez nous, la passion du ciné est indéfectible. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même canapé et même débat enflammé. En attendant, vous savez comment ça se passe. Le replay est dispo illico presto sur radioondine.fr et sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta de Plan Séquence. On balance chaque jour des pépites et bien sûr des concours pour vous faire kiffer et peut-être repartir avec un lot collector. Retrouvez bien sûr la playlist de Plan Séquence sur Insta, hyper important. D'ailleurs, si vous avez des idées de sons à faire passer ou des envies, n'hésitez pas à nous DM, il n'y a aucun souci. Et pour finir en beauté, je vous laisse avec Vikazi et son titre Pote, une découverte, et j'en suis fier. Hein. Ce sont des découvertes, messieurs, dames, les trois, des découvertes exclusives de Plan Séquence et Radio Ondine. Pour tous, ce sont des premiers passages radio. Donc allez les suivre sur leurs réseaux sociaux, donnez-leur de la force. Et surtout, on n'oublie pas la règle d'or de Plan Séquence. Poussez la porte des ciné, partagez votre avis, faites vivre la salle. Et surtout, n'oubliez pas le pop-corn.
C'est pour ça qu'on est potes.
Ah, c'est fou comme je t'aime bien. Dès que je vois ta tête, je rigole. T'es vraiment trop mon copain.
Bah, c'est pour ça que parfois j'aimerais tellement avoir ce que tu as. Se lever tous les jours et être ami avec moi. Parfois t'as du flow et parfois t'en as pas. Y'a des jours autour et moi choqué sans vêtements sur toi. J'aurais jamais autant insulté quelqu'un de cet animal. En même temps, j'ai jamais croisé quelqu'un d'autant insultable. Parfois tu m'impressionnes, parfois t'as le cul d'un poil. Mais dans les deux cas, t'es l'épinière et je suis la moelle. Je peux vider devant tout le monde tant que tu valides la blague. Je crois qu'on ne se sera jamais dit bonjour par message. Même une fois en couple, tu sors jamais de nos bases. On ne se voit pas pendant des ans, rien ne change. C'est pour ça qu'on est pas.
C'est pour ça qu'on est potes, hein. C'est fou comme je t'aime bien. Dès que je vois ta tête, je rigole. T'es vraiment trop mon copain, hein. C'est pour ça que
je... Chez toi c'est chez moi c'est pareil. Elles sont qu'on choisit pas et ceux qui en deviennent. Quand je dois le dire à personne, dis-le à personne. Fais l'étonner si un jour il te l'apprend. Viens au monde seul, de même quand on meurt. Entre les deux on fonctionne à plusieurs. Je sais, le lion marche seul. Et m'imaginer jouer au frisbee me fait mal au cœur.
Tu étais le gamin qu'on croyait sage.
Que tu étais un connard. Tu devais penser pareil de moi vu comment je regarde les gens que je ne connais pas.
C'est pour ça qu'on est.
Tu vois, c'est pour ça qu'on est potes.
Ah, c'est fou comme je t'aime bien. Dès que je vois ta tête, je rigole. T'es vraiment trop mon copain. Mais c'est pour ça qu'on est potes. Ah, c'est fou comme je t'aime bien. Dès que je vois ta tête, je rigole. T'es vraiment trop mon copain. C'est pour ça qu'on est potes.
Ça te dit, on se fait une toile?
Pourquoi pas, mais y a quoi l'affiche?
On aurait dû écouter Plan Séquence sur Radio Ondine chaque mercredi. Radio Ondine, 98.7 et 95.2.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques kiri écrasés. L'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bonbecs et des chocorèves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak. Il veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
De la nature préservée de Paimpon au rivage de Dinan, Radio Ondine vous connecte à votre territoire. Écoutez-nous sur le 98.7 et 95.2 ou en streaming sur radioondine.fr. Les ondes bretonnes partout, tout le temps.
J'ai plus peur de moi, c'est cool. J'suis bien dans mes pompes, j'coule plus. J'suis plus avec des gens tordus. J'bois quand même du whisky, t'as vu. 10 kilos en plus, j'rentre plus. Dans mes slims qui me moulaient le cul. J'fais de la basse dans des projets pop. À Paris, j'ai plein de potes. Mais dans 10 ans, je serai toujours punk. En jogging, à faire des barbecues avec mes potes. J'ai un groupe WhatsApp de proutes. J'inviterai mes copains à mater le foot.
suis vraiment trouvé, je suis bien. Parce que je m'en bats les couilles de tout. Je n'ai plus d'étiquette, aucune case. Ouvert à tout, mais pas qu'un peu, tu vois. Mon chien adore le caca des clochards. C'est trop son kiff, alors je le laisse faire. J'ai appris à prendre soin de ma peau. Je me suis laissé pousser les cheveux, je suis beau. Dans 10 ans, je serai toujours punk. Je ferai des cheesecakes aux copines de ma meuf. Un mulet, c'est comme une crête en plus long. Je suis plus ouvert, un peu moins con.